À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées vivantes à Germes, chez Lily.
Mais non, mais dis-moi en plus, parce qu'il y a des trucs du collecte, il y en a tellement, je veux dire, tu vois.
Ah bah quelque chose que t'as envie de partager. Là, en ce moment...
Chaque artiste est invité dans l'écrin d'un salon à venir partager un document d'archives, de collectage, de littérature orale ou écrite, afin de l'explorer d'abord à partir du son lui-même, puis au travers du toucher, de la vue, de l'odorat et du goût. Bienvenue dans un moment sensoriel et intimiste de rencontre avec des artistes singuliers.
Je sais pas, c'est vachement dur de choisir, quoi.
Eh oui, ah bah ça... C'était un peu l'exercice.
C'est hyper dur, quoi.
Dernier épisode avec Jean-François Vraud.
Je sais pas, j'ai du mal à choisir. Il y a la collecte de Bruno, évidemment, le briolage de 1913. Tu vois ce que c'est ?
Le briolage, je vois ce que c'est.
Ouais, il y a une collègue de l'enquête Bruno, Christian Bobin, qui chante un briolage, que j'ai beaucoup écouté, parce que c'est une espèce de d'ovni total, quoi, de choses qu'on ne pensait pas pouvoir entendre un jour. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé, c'est un mélange de thèmes, d'un vrai thème, d'une chanson, et puis d'impro. Ça improvise. Autour de la chanson, c'est donc ce briolage enregistré pendant l'enquête Bruno, et c'est un chanteur, Christian Bobin, qui chante ce briolage, donc, qui est un chant aux bœufs pour encourager les bœufs, voilà, au travail. Donc évidemment, la forme, la forme de la chanson, elle est complètement liée au contexte. Et évidemment, ça, c'est magnifique. Moi, c'est évidemment des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est une des choses qui me passionne dans ces musiques. C'est que c'est des musiques de contexte qui s'adaptent au contexte et donc qui se modifient en fonction des espaces, en fonction des gens à qui tu t'adresses, en fonction du temps, de l'année, en fonction de ton état, en fonction de l'instrument. Voilà, c'est des musiques finalement très plastiques. Là, c'est un magnifique exemple de quelqu'un qui est dans une, en plus d'une performance vocale incroyable et qui va développer un espèce de chant comme ça sur un temps assez long Et c'est, tu entends ce développement qui est très beau musicalement, avec des choses très extrêmes. Il y a aussi une chose très, très, très engagée corporellement, qui n'est pas sans me déplaire. Et on entend ce déploiement, et aussi on entend le souhait d'occuper l'espace. Et ça, c'est très beau. C'est un espace extérieur, donc. Et on sait que les chanteurs de Briolage se tiraient la bourre, c'est-à-dire c'est à celui qui chanterait, on labourait tous à peu près en même temps, et c'est à qui chanterait la plus belle et le plus fort, et voilà. Et ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est les éléments d'improvisation, c'est-à-dire qu'en fait, ils chantent le nom des bœufs, ils chantent sur les bœufs, ils les encouragent l'un après l'autre, voilà. Donc on a trouvé beaucoup de choses sur cette tradition en Poitou aussi, qui s'appelle le dariolage et qui utilise les mêmes systèmes des bribes mélodiques d'une chanson, voilà, des espèces de quelques phrases et puis une chose improvisée selon le contexte. Ça c'est peut-être une chose qui serait formidable à écouter. Et après, évidemment, il y a toute la musique de violon, mais la musique de violon, c'est vaste. Et non, une chose que j'ai aussi beaucoup écoutée, c'est Ben Benoît, c'est le chanteur canadien, québécois, enregistré il y a bien longtemps, dans un disque qui s'appelle Acadie et Québec, disque vinyle, et qui chante une version de La Passion. Qui est absolument prodigieuse, aussi d'engagement corporel. Moi, la question de l'engagement m'intéresse, la question de l'engagement au plateau m'intéresse, de la performance, de s'engager dans quelque chose, quoi, mais vraiment. Et on m'avait raconté l'histoire d'un joueur de Bignou, Cause ou Bombard, je ne sais plus. En Bretagne, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, et qui disait « Si tu veux énerver les gens, il faut t'énerver toi-même. Il faut commencer par t'énerver toi-même. » Et j'aimais bien le fait de se dire qu'on devait se mettre dans un état particulier. C'est pas simplement faire du répertoire, c'est aussi s'engager dans un état corporel particulier. Et Benoît, ce chanteur de Passion, enfin qui chante là une version, très belle version de La Passion de Jésus-Christ, on a l'impression d'entendre Joe Cocker, quoi. C'est à peu près le même type d'engagement, voilà, de vocal, et c'est très beau.
Si vous voulez l'atteindre, oh Jésus, si vous voulez l'atteindre, quand Jésus était tout petit, il ressemblait à un ange, oh Jésus, il Seigneur, la trahison est grande, Jésus. La trahison est grande. Avant qu'il soit vendredi nuit, vous voilez mon corps prendre, oh Jésus. Vous voilez mon corps prendre. Vous voilez mon côté passé du fer de la lance, oh Jésus. Du fer. Par trois ou quatre ans, oh Jésus, par trois ou quatre ans, vous les voirez monter au ciel en chantant les louanges, oh Jésus, en chantant les louanges. Vous voirez mon corps porté en terre par trois ou quatre anges, oh Jésus, par trois ou quatre anges. Vous attendrez le coq chanter aussi la poule blanche, oh Jésus, aussi la poule blanche. Vous voirez les étoiles tomber, les pierres, les cailloux fendre, oh Jésus, les pierres, les cailloux fendre. Vous voirez la mer surmontée au-dessus des montagnes, oh Jésus, au-dessus des montagnes. Vous attendrez tous les oiseaux qu'ils en vengeance, oh Jésus, qu'ils crient en vengeance. Vengeance ici, vengeance là, c'est le sauveur du monde, oh Jésus, c'est le sauveur du monde.
Alors, ce sera au choix, soit le Briolage, soit Ben Benoît, pour point de départ. Je te propose le petit jeu d'exploration par les cinq sens de ces documents, l'un ou l'autre ou les deux. Alors, tu as déjà un peu commencé par le son, par la matière sonore, donc on commence par l'ouïe. Peut-être tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce Briolage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'a provoqué, toi, dans ta musique, d'entendre ça, concrètement ?
Ben, l'acceptation de cet engagement. C'est-à-dire l'entendre faire, ça te donne... ça te donne presque la permission de faire, pas de faire n'importe quoi, mais en tout cas de t'engager corporellement beaucoup plus. Moi, c'est ce que j'expliquais ce matin, j'étais quelqu'un d'assez timide quand j'étais plus jeune, je le suis toujours, mais voilà, je le montre moins. Mais j'étais assez timoré, quoi, même en jouant, en parlant au plateau, c'est quelque chose qui... J'étais quand même dans une espèce de demi-teinte en permanence, et évidemment, ça me posait des questions, ça m'interrogeait. Je me disais, est-ce que je peux continuer à monter sur un plateau, à prétendre faire ce métier, en étant comme ça un peu caché derrière mon instrument? Et aussi que ce que je voyais autour de moi, c'était... Pas toujours, mais un peu dans le milieu traditionnel, les gens un peu emphatiques, quoi, un peu dans la retenue, un peu dans l'hommage aux anciens, une espèce de chose un peu... Voilà, on va vous jouer la chanson de la mère machine ou la bourrée du père machin. Et il y avait toujours, pas toujours, mais en tout cas pour bon nombre d'entre nous, une espèce de... un peu de respect, de musique un peu en demi-teinte finalement, hein, toujours un peu mezzo, quoi. Et moi, assez vite, j'ai été dans d'autres lieux que ceux de la musique traditionnelle. J'ai été jouer avec les gens de la musique improvisée, les gens du jazz, les gens de la performance, le théâtre. Et j'étais très très surpris de rencontrer des engagements corporels dont j'avais pas l'habitude, quoi, de gens qui voilà, qui, quand ils sortaient du plateau, ils étaient complètement exsangues, trempés, quoi. Et donc, ça m'interpellait, je me disais, tiens, bon. Et quand t'écoutes le briolage, bah, en fait, tu t'aperçois que c'est ce qu'il fait. Et donc, ça moi, d'une certaine façon, c'est pas que ça m'a autorisé, parce que j'avais pas besoin d'une autorisation, mais en tout cas, je me suis dit, bah, tiens, aussi dans cette musique-là, évidemment, on a aussi ces choses-là, ça existe, donc ça m'a d'une certaine façon un peu libéré par rapport aux gestes, par rapport à l'engagement. Alors je le fais plus ou moins, ça dépend des contextes, ça dépend de la forme, de ma forme physique, mais j'ai beaucoup de mal à voir un concert où les gens ressortent dans l'état corporel dans lequel ils sont rentrés, quoi, au plateau. Je trouve qu'il doit y avoir une modification. Le plateau, c'est, sans dire que c'est un espace sacré, mais en tout cas, c'est un espace de transformation pour moi. Donc, entre le début et la fin, il doit s'être passé quelque chose. Et donc, ton corps doit se modifier, doit être modifié, me semble-t-il. Après, je peux me tromper, et cet engagement, c'est le mien. En tout cas, j'essaye de me tenir à cette règle. Mais et donc évidemment, tout ce qui dans ces musiques me montre une forme d'engagement. Je parle pas du tout de transe, etc. C'est pas du tout ça dont je parle. Je parle vraiment d'un engagement physique, vocal, instrumental de l'interprète, de quelque chose qui dépasse le simple fait de jouer une bourrée, une scottish ou de chanter une chanson, mais d'accéder à travers ce geste à un espace, à un autre espace. Voilà. Et évidemment, Bruno Bobin, évidemment, quand il chante ce bouillolage, on a vraiment l'impression qu'il est ailleurs, quoi.
On peut continuer avec le sens de la vue. Ça peut être aussi le regard à partir du bouillolage ou de Ben Benoît.
C'est la campagne berrichonne, c'est le bocage. C'est des très belles images, c'est une très très belle, j'aime pas le mot, mais une très belle campagne, on disait ça quand on va à la campagne, une très belle campagne, une très belle, et je j'imagine en fait, quand j'entends le bruyolage, j'imagine les bœufs déjà, qui sont, enfin, c'est un pays où les bœufs sont blancs, entre autres, mais il y a des très beaux bœufs blancs, le joug, toute une plastique et tout un enchevêtrement de corps, d'animaux, le joug, la terre qui se retourne, la terre qui fume, la terre, une terre riche, marron, qui se retourne, et on a du marron et on a du vert si on a l'herbe. Et c'est un peu ça pour moi, ce que j'imagine dans ce moment de bricolage, et puis peut-être aussi les bœufs qui fument, parce qu'ils ont chaud, donc il y a de la fumée au-dessus des bœufs, et aussi peut-être de la fumée qui sort des naseaux, parce que c'est un travail, c'est un vrai travail éreintant pour eux. Lui, je l'imagine pas trop, je sais pas, sa voix est tellement hors d'âge que son visage et son corps est un peu hors d'âge pour moi. Je sais pas quelle tête il a, quelle tête il aurait. J'ai jamais vu de photo de lui, donc je sais pas comment il est, mais voilà ce que c'est déterminant, ces histoires de plastique et des images qu'on voit. Et bon, ne parlons pas du paysage, c'est un lieu commun que de parler du paysage quand on évoque ces musiques, mais on a des images, fortes de tout ce qu'on voit, la couleur, le... Je me souviens que là, une des premières fois où je me suis retrouvé en Auvergne à collecter avec mon frère, mon ami qui est mort maintenant, Patrick Mona, on a débarqué, on avait fait un long voyage en Ami 6, et on a débarqué chez André Ricroux qui nous avait accueillis, et à peine on est arrivé chez André... Son voisin est venu le chercher parce qu'en fait il avait besoin d'aide pour tuer son cochon. Et donc on avait fait toute la nuit pratiquement de route dans cet Ami 6 bien déglingué, qui avait le pot d'échappement qui s'échappait un peu par l'intérieur de la cabine. Donc on était un peu verdâtre quand on est arrivé. Et le voisin est arrivé et nous a demandé qu'on vienne aider pour tenir le cochon. Ce qu'on a fait, et je dois dire que ça a été un des moments les plus éprouvants, quoi, parce qu'on est arrivé avec ce cochon, donc le sang, le voyage, et le sang rouge, voilà, il y a quelque chose de la force évidemment des couleurs, mais de la symbolique des couleurs qui s'exprime derrière tout ça, mais tous ces détails. La ville a toujours plus ou moins la même couleur, alors que la campagne non. Et pour un urbain comme moi, c'est toujours une source d'étonnement que de voir le changement des couleurs, et des couleurs fortes. Le sang qui jaillit dans une cour de ferme, c'est très fort, c'est très très fort au niveau des couleurs, et puis au niveau de ce qui se passe symboliquement aussi, bien sûr. On voit jamais ça, nous on va pas dans les abattoirs, donc pour moi cet espace et la collecte que j'ai pu faire, elle a été souvent liée à des images comme ça, assez fortes, assez violentes, assez importantes. Ouais, voilà ce que je pourrais dire.
Le sens du toucher.
C'est peut-être aussi des sensations que je n'avais pas moi comme jeune parisien, même si mes parents avaient une maison dans le Perche, et j'étais beaucoup toujours avec dans la ferme à côté avec les enfants qui avaient mon âge. Et donc j'ai passé finalement beaucoup de temps, j'essaye de me rappeler maintenant, j'ai quand même passé beaucoup de temps, du temps en tout cas, dans un espace rural particulier qu'est le Perche. Et j'étais beaucoup dans cette ferme. J'avais des expériences de toucher, de choses que je ne touchais pas ou qu'on ne peut pas toucher, l'herbe, la terre. Et puis aussi les animaux, le fait de toucher les animaux, de toucher, je me souviens, le paysan de la ferme à côté m'avait autorisé et m'avait encouragé à venir avec lui pendant qu'une femelle, enfin une coche, mettait bas. Et non, il m'avait autorisé à entrer dans les tables. Et il m'avait même laissé faire, parce qu'il y a un certain nombre de gestes à faire quand les cochons arrivent. Et ça, pour moi, c'était au niveau de l'expérience du toucher, c'était incroyable de sentir la femelle qui est en train de mettre bas, de voir les cochons qui arrivent, de toucher un cheval, par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup d'équitation. Alors, on est loin du bricolage, mais en même temps, tout ça est assez relié pour moi. Il y a quelque chose qui, il y a une espèce de ligne un peu entre ces différentes choses. Encore une fois, parce que ma jeunesse et une grande partie de mon existence, c'est dans la ville, et que donc, alors la ville c'est autre chose, c'est aussi des odeurs et c'est du toucher, mais c'est quand même la singularité de ces expériences du toucher que je traverse dans cet espace rural, et que quand je vais aller chez Joseph Perrier, il y a les lapins, il y a ce rapport au corps, et puis évidemment, pour moi l'expérience du toucher, c'est beaucoup le toucher du violon, quoi. Une grande partie du plaisir intime du violoniste, c'est de toucher son instrument. Il y a une relation, on touche un objet qu'on connaît par cœur, qu'on a manipulé des milliers d'heures, et donc quand on le retrouve, on a un plaisir infini à toucher la caisse, à toucher le manche, à toucher l'archet, mais beaucoup la caisse, quand même le manche est vraiment un lieu du toucher. C'est presque un lieu érogène, en fait, une zone érogène. Le manche du violon, c'est... Bon, en plus, il y a ce manche qui est là, qui évidemment est très phallique d'une certaine façon, mais il y a quelque chose de très érogène dans cette partie du violon, dans la touche. Le glisser sur la corde, sur les bennes, évidemment, ça aussi, c'est une grosse sensation. Forte, et voilà, la caisse, donc le toucher, c'est aussi ça, voilà. Mais ça fait partie de la musique, de toute façon, je crois, le toucher, la façon d'être avec les objets, et avec cet objet en particulier. Mais bon, je pourrais sans doute parler beaucoup trop longtemps de la relation avec le violon, mais en tout cas, voilà, ça en fait partie, quoi.
On en vient à l'odorat et au goût.
Ben, encore une fois, c'est la bascule, c'est la bascule dans l'odeur des saisons, et dans des sentir le vent, sentir les animaux, j'y reviens. Une bouse de vache, une belle bouse de vache qui sent, un fumier qui sent. Moi, j'ai fait beaucoup de cheval quand j'étais jeune, et donc j'aimais beaucoup les odeurs du cheval. J'aimais beaucoup être à côté des chevaux pour les odeurs. Ça aussi, c'est une expérience en collecte, et j'imagine, à côté de Christian Bobin faisant son bricolage, il y avait des odeurs, forcément, il y avait des odeurs, il y a évidemment l'odeur de la terre retournée, qui est une odeur tout à fait singulière, tout à fait particulière, surtout s'il a plu un peu avant. Et donc, oui, il y a plein de choses liées à ça. Et j'y reviens, l'odeur du violon, parce que chaque violon a une odeur particulière. C'est lié à la fois au violon lui-même, et aussi à celui qui en joue. Et en fait, celui qui joue transmet une odeur à l'instrument. Parfois une odeur parfumée, c'est le cas pour les violons de femmes. Parfois, on prend des violons de femmes et on sent le parfum des femmes sur le violon. Le violon est imprégné de ce parfum. Et sur des violons d'hommes, il y a une odeur, il y a l'odeur de la sueur, Il y a une odeur indicible qui est à la fois un mélange de bois, de colophane et de quelque chose en plus qui est un suc corporel, probablement. Et une partie du plaisir de retrouver mon instrument, c'est retrouver cette odeur. Encore une fois, comme le toucher tout à l'heure. Donc il y a une odeur, je suis dans un... Alors l'odeur change suivant l'hygrométrie, hein, c'est pas toujours la même chose. Et puis l'odeur du violon, c'est l'odeur de la colophane, parce que la colophane, c'est une matière tout à fait intéressante, singulière. C'est de la résine, donc cuite, et qui sur le larcher va se mettre en poudre et va créer une odeur particulière. Et quand on vient d'en mettre et quand on joue, on a vraiment l'odeur de la résine, du pain, voilà, qui arrive, quoi. Et ça aussi, c'est évidemment beaucoup de... Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu du plaisir de jouer, quoi.
La saveur et le goût.
C'est très banal ce que je veux dire, mais encore une fois, dans en collecte et dans cet espace, on va manger des choses, des goûts. On parle toujours de la cuisine roborative. Hein, ils font des plats roboratifs avec du fromage et du pain, etc. Mais c'est plus que ça, évidemment. C'est plus que ça et c'est lié à... comme la musique parle du paysage, parle du pays, parle de raconte des choses, du territoire. Évidemment, la nourriture, mais c'est vraiment, enfin bon, c'est une banalité. La nourriture, elle raconte le territoire, elle raconte les hommes. Quand tu manges un aligot... t'es dans un univers, quoi. C'est peut-être de la pure construction intellectuelle, mais quand je mange un aligot, je vois l'Aubrac. Je vois l'Aubrac, je vois les plateaux, je vois quelque chose d'assez plat, comme est l'aligot. Je vois cette espèce de pâte blanche avec de la tomme fraîche travaillée. Finalement, c'est beaucoup plus dur à faire qu'on le pense. Et je vois cette espèce de paysage un peu particulier que sont les plateaux de l'Aubrac. Si je mange une truffade, qui est plutôt la même chose avec des pommes de terre sautées, de la tomme fraîche, mais qui est plus haut dans le Cantal, je suis plus dans l'Aubrac. C'est plus, je sens déjà les volcans et il y a quelque chose de plus... Il y a de l'ail éventuellement, il y a les pommes de terre sautées, donc il y a une chose un peu plus croustillante, quoi. On est plus dans une chose un peu... Pas festive, mais en tout cas, l'aligot, c'est une espèce de méta-nourriture, quoi. C'est-à-dire, c'est un espèce de... C'est à la fois maternel, à la fois... c'est de la pomme de terre, mais qu'on ne reconnaît plus parce qu'elle est tellement empurée, qu'elle est transcendée. C'est de la tomme fraîche. Et puis c'est le travail de celui qui l'a fait, mais on retrouve presque une nourriture, j'allais dire, intemporelle, qu'on pourrait donner à la fois à des gens mourants, à des vieillards et à des nourrissons, quoi. Donc il y a quelque chose de très... de parfaitement parfait dans cette chose-là. Voilà, et puis c'est des goûts de fromage, bien sûr. Pour moi, c'est important, très important. Le fromage, c'est très important. Et moi, je suis un peu malheureux ici parce qu'on ne mange pas assez de fromage, mais je n'ai pas assez de fromage, en fait. Mais le fromage... très bon laïol ou un très bon salaire, cantal de salaire, c'est aussi une expérience incroyable, quoi. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je dois dire que le fromage est... Voilà, je suis malheureux à l'étranger quand il n'y a pas de fromage. Et un jour, j'étais en tournée avec une tournée de violonistes en Angleterre, tournée d'un mois avec des grands violonistes un peu du monde entier. J'étais avec Kevin Burke, j'avais la chance de tourner avec Kevin Burke, ce grand violoniste irlandais. On parlait régulièrement. Et un jour, il est tout mignon, il est arrivé avec un sac en papier. Et il m'a dit, c'est pour toi, je t'ai acheté un peu de fromage. Il m'a acheté du fromage, il avait acheté du cheddar. Il m'a dit, je sais que ça te manque le fromage, je t'ai acheté un peu de fromage. C'était très beau. Et voilà, le fromage, le gaperon, c'est un truc incroyable. C'est un fromage de Basse-Auvergne. On dit que c'est l'ancêtre du boursin, mais c'est pas l'ancêtre du boursin. Ça ressemble pas vraiment à ça, mais c'est un très bon fromage avec de l'ail, qui est un fromage tout à fait singulier qu'on trouve assez peu. Une très bonne fourme d'Ambert. C'est aussi une chose. Et puis quand même peut-être, non pas le roi des fromages, mais en tout cas un très très grand fromage, c'est le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, c'est quand même sur le marché de Rion, là il y a tous les producteurs de Saint-Nectaire, et ça peut être divin, c'est-à-dire qu'on se met à table et on a presque l'impression de faire un rituel sacré quand on mange un fromage comme ça, quoi.
Alors pour revenir à ces documents dont tu as parlé, quel est selon toi l'écho qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ou plus tard, au-delà de ta propre expérience et de ta connaissance, pour d'autres gens, pour ailleurs ?
Le prolongement. Je sais pas, j'étais au concert de Romain, là, et je voyais un tout jeune homme devant moi, là, avec des dreadlocks, et qui semblait beaucoup, beaucoup groover, beaucoup s'amuser sur des enfin, qui était manifestement ému et traversé de quelque chose en écoutant des trucs de collecte, et... On sait jamais. C'est assez étrange, cette histoire de collecte et d'objets collectés. On sait que on va être sensible à une chose, et puis alors que ton voisin ou la personne avec qui tu joues l'est pas vraiment. Tu vois, il y a pas. Je dirais qu'il y a pas vraiment de consensus d'écoute, quoi, sur ces choses, sur ces objets. C'est des objets tellement particuliers qui racontent des Tu vois comment Maud Herrera a parlé de la façon dont elle écoutait les trucs, ou plutôt de la façon dont elle écoutait les trucs que Pierre Boissière écoutait. Et tu sens là-dedans que c'est aussi notre écoute. Moi, j'ai appris avec les gens de la musique contemporaine cette culture de l'écoute. En fait, l'écoute, ça se travaille. Il faut cultiver son écoute, il faut la travailler. Et donc, j'allais dire, on n'a pas tous les mêmes niveaux de culture. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes niveaux de culture, mais on n'a pas tous les mêmes sensations. Et on n'a pas tous la même. On n'écoute pas tous de la même façon. Certains vont écouter plutôt ça. T'as entendu cette modalité. Puis quelqu'un, au contraire, va écouter les grains, les matières. Et. C'est la musique commerciale. C'est le commerce dans la musique qui fabriquent des objets consensuels. Mais ces objets-là, ils ne sont pas consensuels. Ces objets-là, c'est des objets de... T'écoutes le Briolage, c'est 1913, ça craque, c'est sur rouleau. Donc c'est vraiment un truc quasiment inaudible, en fait. Mais qui l'est pas, si tu l'écoutes bien, si tu dépasses ce que t'écoutes au premier lieu, si t'es capable de concentrer ton écoute sur un point particulier... qui est la voix de Christian Bobin, la façon dont il déploie sa chanson, et que tu peux faire abstraction de la chose technique, à ce moment-là, peut-être il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas du tout, moi, pour les générations qui vont venir. Moi, j'ai traversé des trucs très, très paradoxaux là-dessus. Les premiers stages de violon que je faisais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages de violon à une époque, et j'amenais toujours des collectes pour les gens pour écouter, et tout le monde disait, mais tu nous fais chier avec ce truc, arrête, joue, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais un peu volontariste en disant, ah bon, on va écouter Chabrier, Chastagnol et tout ça. Perrier, bon. Et puis les gens, tu vois. Et puis maintenant, c'est un peu différent. Les jeunes générations, ils ont envie d'écouter ça. Ils écoutent ça d'une oreille autre. Et parfois un peu exotique, un peu romantique, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y a des formes d'exotisme aussi. Mais c'est très bien peut-être, et c'est tant mieux comme ça, mais des formes d'exotisme qui fonctionnent, qui commencent à fonctionner dans nos musiques. Et sans doute que nous aussi, on a craqué sur la question de l'exotisme, mais je suis parfois un peu surpris de l'écoute de jeunes gens qui écoutent des documents d'enquête. Et je suis surpris de leur enthousiasme, et je trouve ça très bien. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils entendent en fait là-dedans? Parce que en fait, moi, ce mec, je l'ai vu quand j'enregistrais. Mais eux, ils ne l'ont pas vu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils entendent dans tout ça? Qu'est-ce qui les émeut? Et comment, par rapport à cette culture de l'écoute, qu'est-ce qu'ils entendent? Quels sont les paramètres qui les rendent si heureux d'entendre ça? Et je ne sais pas. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question de savoir qu'est-ce que Christian Bobin, comment il va être écouté, je ne sais pas, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que chaque fois que je le fais écouter, les gens me disent « Ah oui, je fais écouter ça, et c'est une culture à l'aveugle. C'est un travail à l'aveugle. » Je dis « Je vais vous faire écouter un truc. » Je ne vous dis pas ce que c'est, vous me direz après ce que c'est. Donc je fais écouter ça, et les gens disent « Ah oui, mais c'est Esquimau, c'est peut-être africain. Ah, océanien peut-être, je ne sais pas. » Puis tu leur expliques que non, c'est Berrichon. Ah, Jean, au début, il ne croit pas ça, mais c'est tellement, tellement loin des canons. Donc, je ne sais pas, je pense, moi je suis plutôt un homme de culture. En tout cas, la diffusion de la culture m'intéresse, la diffusion du savoir m'intéresse, que les gens grandissent leur savoir, et leur savoir écouté notamment, qui est une chose qui se perd énormément. Mais la première fois que j'ai écouté Chastagnol, j'ai rien compris du tout. Le disque de Chant du Monde, j'ai publié par Lorta Jacob et John et Catherine. Il y avait deux violoneux, il y avait Chastagnol et Chabrier. Chastagnol, je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à... Chabrier, c'est plus simple. Chabrier, c'est plus simple rythmiquement. Mais Chastagnol, c'est très tarabiscoté, c'est une musique très ornementée. Il n'arrête pas de glisser avec sa technique, parce qu'en fait, il n'arrête pas de glisser sur le manche, de faire des espèces de faux démanchés. Donc, ça donne une espèce de modalité très, très étrange, et je ne comprenais rien. Et tout le monde disait, mais Chastagnol, c'est génial, Chastagnol. Bon. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre. Ça a pris du temps. Moi, je suis assez lent, en fait. Donc, du coup, ça a mis du temps avant de comprendre et de sentir d'éprouver du plaisir à entendre cette musique. C'est très complexe, les phénomènes de l'écoute. L'écoute, c'est une chose très... Bon, c'est analysé, hein. Mais qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que l'écoute, elle génère des choses chez nous? Évidemment, elle nous renvoie à notre histoire, elle nous renvoie à notre inconscient, très probablement. Pourquoi un son, à un moment donné, déclenche une émotion? Moi, j'ai fait plusieurs concerts, ça m'est assez souvent arrivé dans ma carrière, de gens qui pleuraient, qui se mettent à pleurer pendant un concert. J'ai encore eu ça tout, très récemment, là. Et en fait, une fois, une femme est venue me voir et a parlé, et en fait, elle expliquait que que les sons que j'avais produits, tout d'un coup, avaient déclenché chez elle une espèce de, je sais pas, de remémoration, de libération de quelque chose, et qu'elle ne savait pas trop expliquer pourquoi, mais que ça avait déclenché les pleurs et l'émotion, etc. Bon. Et je pense qu'il y a, il y a, il y a, Il y a tout ça dans le phénomène sonore. Il y a à la fois un plaisir esthétique de gens cultivés qui sont, ah oui, ça c'est la version de machin, de truc, donc, où on a la culture donc, qui permet de comprendre une œuvre ou un objet sonore. Et puis il y a des choses beaucoup plus mystérieuses qui sont effectivement que tout d'un coup il y a une espèce de résonance de invisible, presque magique en fait entre l'objet, le son produit. Il vient de parler de ça, hein, Romain, c'est de ça dont il parle. Et entre l'objet sonore et puis ton histoire. Ce que t'as vécu, et que des fois tu peux dire pourquoi, et des fois tu sais pas pourquoi. Donc moi, Christian Bobin, je suis très touché. Il y a quelque chose qui m'émeut dans ce son de voix, cette liberté, cette le fait de pousser la voix. Après, je le fais écouter à des gens. Il y a des gens qui trouvent ça chouette, qui sont ah non c'est Et on peut rien dire de plus par rapport à ça. On peut juste donner à écouter. Donc moi, mon travail, c'est de donner à écouter ces choses-là, de faire écouter. Après, qu'est-ce qu'on vont faire les gens avec ça? Je sais pas, mais en tout cas de donner à écouter. Et des fois, tu vas être très très surpris de voir que c'est la personne dont tu penses qu'elle est la plus éloignée de ce que tu fais écouter, qui est en fait le plus sensible à ce que tu fais écouter. Et ça, c'est toujours très étrange.
Pour finir, je te demanderais bien de nous faire une offrande musicale, spécialement pour ce carnet radiophonique.
Une offrande musicale.
Merci Jean-François.
Merci à toi.
Vous venez d'entendre le dernier épisode de ce carnet radiophonique. À l'oreille des montagnes a été réalisé dans le cadre des rencontres Pyrénées Vivantes organisées par l'équipe de Chez Lily à Germes. Je remercie tout particulièrement Franck Morinière, Laurence Bru, Louis Paris, Léo Enoki et Antoine Depéret pour leur participation à la production de ce podcast. Un grand merci bien entendu aux interviewés Jean-François Vraud, Jean-Marc Suteau, Romain Baudouin, Xavier Camaraza, Arnao Biols, Maud Herrera, Camille Sechepé, Benia Tachiari, Madi Oyenhardt, Caroline Dufaux, Thomas Baudouin, Pascal Caumont et Laurent Cavalier. Vous aurez reconnu des extraits de leurs œuvres dans les génériques. Et enfin, merci à tous les collecteurs et toutes les collecteuses, archivistes, amateurs et ethnologues de l'ombre qui créent des traces pour nous permettre de créer des liens poétiques et politiques avec d'autres êtres issus d'autres temps et d'autres lieux. C'était Anaïs Vaillant pour À l'oreille des montagnes.